Antoine Vernal, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Il y a des courses cet après-midi à Maison Lafitte. Nous avons déjà l'arrivée de la première course, premier le 7, deuxième là, c'est troisième le 2. Il est 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, Talleyrand et Napoléon.
Vous êtes un voleur, un lâche, un homme sans foi. Vous avez toute votre vie manqué à tous vos devoirs. Vous avez trompé, trahi tout le monde. Il n'y a pour vous rien de sacré. Tenez, monsieur, vous n'êtes que de la merde dans un bas de soie. Napoléon à Talleyrand, le 29 janvier 1809.
D'histoire. Né sous Louis XV et mort sous Louis-Philippe, toujours présent aux premières loges pendant une des périodes les plus agitées de l'histoire, Talleyrand a servi et trahi 9 régimes politiques différents, en laissant derrière lui l'image d'un homme immoral, corrompu, opportuniste, cynique et traître à toutes les causes dans lesquelles il s'est engagé. Issu d'une des plus grandes familles de la noblesse française, évêque d'Autun, député du clergé au début de la Révolution, puis ministre des Affaires étrangères du Directoire, cet ambitieux, doté d'un flair politique incomparable, a toujours su choisir le bon camp. C'est ainsi qu'en 1797, quand Bonaparte revenait d'Italie, Talleyrand fut un des premiers à avoir en lui l'instrument grâce auquel il allait devenir le plus grand diplomate de son temps.
Comment dois-je vous appeler ? Monseigneur, parce que vous avez été évêque d'Autun ? Excellence, parce que Danton vous avait fait son ambassadeur en Angleterre, ou Monsieur le ministre, puisque vous dirigez les relations extérieures de la France.
La plupart des gens m'appellent Talleyrand. Juste Talleyrand. J'ai entendu dire que vous aviez un projet de nouvelle constitution. Êtes-vous intéressé par le pouvoir politique?
Moi, la gloire que j'ai acquise en Italie suffit à me combler. Non, non, en ce qui me concerne, j'ai d'autres projets. Et je ne rêve que de revenir à mes premières amours.
Aux mathématiques?
Oui, oui, j'espère être élu membre de l'Institut.
Et c'est tout?
Pour le moment.
À vos modestes ambitions. Santé.
Emmanuel de Varesquiel, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était le 6 décembre 1797, la toute première rencontre entre deux destins, celui de Talleyrand, qui est déjà ministre, et puis celui de Bonaparte, qui n'était encore qu'un général parmi d'autres. Alors une rencontre, dites-vous, dans un livre, dans une biographie de Talleyrand, une rencontre décisive entre deux grands prédateurs à sang-froid.
Oui, c'est la différence, c'est l'envers de la rencontre de Chateaubriand avec Napoléon. On n'est pas dans le rêve, là, on est dans la réalité politique immédiate. Et c'est une confrontation dès le départ. C'est une confrontation complexe, parce qu'il y a entre les deux personnages à la fois manipulation, mais aussi séduction, et probablement curiosité de l'un pour l'autre. Ils sont d'origine très différente, de milieux très différents. On peut penser, il est certain que Bonaparte, le jeune Bonaparte revenant d'Italie, est fasciné par ce que représente Talleyrand, issu d'une grande famille d'aristocratie de cour, d'ancien régime, celui qui probablement à cette époque, alors que on est encore en pleine émigration, détient les secrets de l'étiquette de cour et des bons usages d'ancien régime qui fascinent tant Bonaparte. N'oublions pas que Bonaparte, au moment où il négocie avec les Vendéens, par exemple un an plus tard, dit, parlant de lui-même, nous autres nobles. Il y avait une forme de snobisme chez Bonaparte.
Ah oui.
qui faisait que probablement Talleyrand l'a fasciné non seulement par son intelligence politique et son côté visionnaire, mais aussi parce qu'il représentait socialement.
Qu'est-ce que Talleyrand, qui est vraiment ministre, qui est un personnage, le personnage sans doute le plus important du Directoire, attend de ce général Bonaparte? Est-ce que déjà on peut dire qu'il pressent au fond l'homme qu'il sera et la restauration d'un régime politique au fond avec lequel il n'est pas vraiment rompu. Talleyrand, bien sûr, a salué la révolution, il en a même été un des instruments dès le début, mais en même temps, vous semblez dire qu'il a toujours regretté un peu, non pas l'ancienne monarchie, mais disons le principe monarchique, et notamment une monarchie constitutionnelle, c'est sa grande idée en fait.
Oui, qui n'a rien à voir avec la monarchie d'Ancien Régime, qui était une monarchie dite absolutiste, même si des contre-pouvoirs existaient. Mais la monarchie de ses rêves est une monarchie moderne, entre guillemets, qui correspond à une représentation et à une constitution. Par contre, pour reprendre votre question, en ce qui concerne Bonaparte, Talleyrand voit dans Bonaparte, en 1798, quelqu'un qui est capable de remettre de l'ordre dans la maison. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Talleyrand à propos de la révolution et des secousses qui ont suivi, c'est « j'essaye de faire en sorte que la machine de l'État verse le plus doucement possible ». Voilà un peu la vision qu'il a de Bonaparte en 1798, c'est qu'il pense que c'est l'homme qui va pouvoir terminer la révolution, pour reprendre une phrase de François Furet. Et c'est pour ça qu'il joue Bonaparte.
Et alors que le directoire est détesté, alors entre la première rencontre et le 18 Brumaire, il y a toute l'expédition d'Égypte, etc. Et puis, Talleyrand va jouer un rôle, là aussi, dans le coup d'État qui va porter Bonaparte au pouvoir. Emmanuel Varesquière.
Oui, oui. Il a un rôle qu'on a considéré pendant très longtemps comme secondaire et que j'essaye de montrer comme quasiment primordial. En tout cas, en ce qui concerne l'organisation, on ne va pas rentrer dans les détails du coup d'État du 18 et 19 Brumaire. Oui, voilà. En 8, mais il est
novembre
présent, il se fait passer dans ses mémoires comme assistant de loin au coup d'État. En réalité, il est présent aux premières loges. Mais il a cette phrase absolument merveilleuse, après le 19 Brumaire et après l'arrivée de Murat et de ses grenadiers, vous savez, à Saint-Cloud, qui vide le Conseil des 500, il dit « on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus ».
En tout cas, Talleyrand est payé en retour par Bonaparte, qui devient donc premier consul, et qui nomme Talleyrand donc ministre des Affaires étrangères.
J'ai pensé qu'un aristocrate, un vrai, sachant manier l'insolence avec l'élégance d'un prince, pourrait redorer notre blason. Alors vous étiez le ministre des Relations extérieures du directoire, le premier consul vous reconduit de vos fonctions.
Je suppose que je devrais me sentir flatté quand vous faites allusion à mon élégance de prince, mais juste nettement préféré que vous eussiez fait allusion à mes talents de négociateur.
Négocier quoi? L'Autriche a repris et occupé l'Italie pendant que j'étais en Égypte. Il n'y a rien de négociable là-dedans.
Ou nous acceptons la perte de l'Italie, ou...
Ou nous faisons la guerre à l'Autriche, c'est ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous connaissez à la guerre? Serait-ce ma gloire que vous enviez? Mais vous la partagerez si vous m'êtes loyal.
Monsieur, je ne veux servir que vous seul. Ne vous fiez à rien. Et surtout à personne.
On aura reconnu Christian Clavier dans le rôle de Bonaparte et John Malkovich dans celui de Talleyrand. Hein, c'est l'extrait d'un téléfilm. Mais Emmanuel Varesquiel, quand il arrive au pouvoir, quand il devient premier consul, Bonaparte lui confie tout de suite, effectivement, des missions importantes. C'est Talleyrand qui va négocier, par exemple, la paix. On est en pleine guerre.
Hein. Oui, on est encore sous le consulat à cette époque-là et la marge de manœuvre de Talleyrand est beaucoup plus importante qu'elle ne le sera par la suite. Il ne faut pas oublier quand même que la période 1800-1803, c'est la période de la restauration de la paix. La France signe 20 traités de paix avec différents pays d'Europe, y compris avec l'Angleterre, c'est la fameuse paix d'Amiens, et avec l'Autriche, c'est la paix de Lunéville, un petit peu avant. Et c'est vraiment le retour de la paix. Et Talleyrand a été un véritable artisan, dans la mesure où la politique du premier consul à l'époque conduisait à une remise en état de l'État. Le premier consul avait absolument besoin d'une paix avec l'Europe. On n'est pas encore à l'époque du système napoléonien. On est encore dans une période intermédiaire, période que Talleyrand sert aussi sincèrement que possible, même si évidemment il en profite pour faire un peu d'argent sur le dos de la politique et de la diplomatie.
La paix puis la paix intérieure, c'est l'époque aussi où Talleyrand négocie le concordat. En revanche, il a joué un rôle important dans ce qui a été une tâche dans la vie de Napoléon, c'est-à-dire l'exécution du duc d'Enghien quelques semaines avant la proclamation de l'Empire, Emmanuel Varesquiel.
Oui, le duc d'Enghien, c'est ce mot de Fouché, hein, ouais. C'est là mettre un fleuve de sang entre les Bourbons et la Révolution. C'est en fait la première, Chateaubriand dit aussi, c'est la dernière marche d'accès à l'Empire. La position de Talleyrand par rapport à ça, elle est la suivante. Il sait très bien, il est aussi bien c'est l'homme le mieux renseigné de France, Talleyrand, hein, à cette époque-là. Il sait très bien qu'Enghien n'a absolument joué aucun rôle dans la conspiration Moreau-Cadoudal-Pichegru, qui est le dernier coup essentiel, comme disaient les anglo-royalistes, porté contre Bonaparte. Il ne faut pas oublier que Bonaparte n'a pas d'enfant, que l'hérédité n'est pas encore assurée constitutionnellement, et que le régime est extrêmement fragile. Et ce que veut Talleyrand, c'est en fait mettre de la solidité dans ce régime. Il pense que la solidité et la continuité du régime, mais il pense plutôt à une royauté qu'à un empire, est le meilleur garant des rapports qui peuvent exister entre la France et l'Europe. Cela rassurera l'Europe. N'oublions pas qu'on sort quand même de 10 années de guerre révolutionnaire, de conquête et d'idéologie. Donc ça, c'est une idée essentielle. Mais en ce qui concerne le duc d'Enghien, autant Napoléon est persuadé qu'il y a eu de la part d'Enghien une tentative directe d'assassinat, autant Talleyrand sait très bien qu'Enghien n'est pas coupable. Et il n'a pas décidé de l'exécution du duc d'Enghien, mais il a suivi Napoléon. Il a considéré que probablement lui laisser cette vengeance d'État, c'est-à-dire l'exécution du duc d'Enghien, serait un gage à la bonne volonté de Napoléon de organiser un régime aussi libéral et constitutionnel que possible. Lui, encore une fois, pense à une royauté et non pas à l'Empire. En réalité, c'est vers l'Empire que nous allons.
L'exécution du duc d'Enghien était à l'ordre du jour des députés. Ils l'approuvent, et à une très large majorité. Pour ceux qui avaient voté la mort de Louis XVI, c'est naturel, désormais ils vous considèrent comme l'un des leurs. Ils ont même un titre à vous proposer, empereur des Français. L'idée n'est pas si mauvaise.
Je suis républicain.
Oui, mais un empereur peut être élu de la même façon que les Césars l'étaient autrefois à Rome.
Les Césars étaient élus par le Sénat. Moi, j'exigerais que ce soit tout le peuple français qui ratifie et approuve mon élection.
Je serai donc le premier citoyen français à avoir l'honneur de vous présenter mes respects. Sire.
Sire. Sire.
Je vous assure que vous vous y ferez très vite.
On verra bien.
En réalité, Emmanuel de Varesquiel, malgré ce qu'on vient d'entendre, il n'était pas favorable, dites-vous, Talleyrand n'était pas favorable à l'Empire.
Non, il espérait un régime qui soit beaucoup plus libéral et beaucoup plus représentatif que ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la mise en place d'un pouvoir personnel, autocratique et autodidacte, extrêmement violent, qui n'était pas du tout dans les idées de Talleyrand. Voilà, ça c'est une certitude. Ce qui est très intéressant dans l'affaire du duc d'Enghien, c'est pas tant le fait que Talleyrand a fini par suivre Napoléon. Évidemment, Napoléon de son côté à Sainte-Hélène va présenter Talleyrand comme celui qui lui a conseillé, qui lui a dit que Enghien était là, qu'il fallait l'attraper. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Talleyrand, n'aimant pas les portes fermées et aimant que l'avenir soit ouvert, va tout faire pour maquiller sa participation à cette exécution d'Enghien. Et là, on rentre dans l'artiste absolu.
Alors l'artiste et puis l'homme couvert de la générosité de Napoléon qui va le nommer grand chambellan d'Empire, prince de Bénévent. Personne d'ailleurs ne sait où c'est Bénévent. Je crois que c'est en Italie, hein, si je vous ai bien lu. Mais enfin, c'était des revenus. Il n'a d'ailleurs jamais foutu les pieds dans ce duché de Bénévent. Donc il accepte, sinon l'Empire, du moins les honneurs de l'Empire. Et puis surtout, il reste ministre des Affaires étrangères. Et là, on voit bien que tout de suite, il est en désaccord avec Napoléon, puisqu'il est devenu Napoléon et empereur des Français, puisque c'est l'homme de la paix. Napoléon, qui a été en guerre presque pendant toute la durée de l'Empire, Talleyrand, au contraire, lui, voulait la paix avec l'Autriche, la paix avec la Russie.
Oui, il fait tout pour éviter la dissolution ou la fin de la paix d'Amiens, c'est-à-dire le retour de la guerre avec l'Angleterre, qui sera l'ennemi le plus déterminé de la France à l'époque jusqu'en 1814, et qui va finir par être le pivot de la dernière coalition qui va renverser Napoléon. Et il va proposer très régulièrement des plans de paix qui sont évidemment à l'opposé de ce que Napoléon est en train de penser et de construire, c'est-à-dire un système dynastique et familial qui fait que l'Europe est entièrement sous sa domination et sous sa coupe. Tout cela sous le prétexte d'une guerre à mort et d'une guerre économique, c'est le blocus continental avec l'Angleterre. Et donc régulièrement, en 1804, en 1805, en 1806, Talleyrand, ce sont des propositions de paix qui ont été peu lues, propose à Napoléon des arrangements d'équilibre européen. Le mot équilibre est un très grand mot dans son esprit, alors que dans l'esprit de Napoléon, c'est domination. Équilibre d'un côté, domination de l'autre.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, mais je crois que ça se faisait à l'époque, c'est que en échange de ses services et de ses relations, il se fait par exemple payer par les Autrichiens, par les Russes, pour les services qu'il peut rendre, pour le fait justement au service de la paix.
Oui, c'est ce qu'on appelait à l'époque les douceurs diplomatiques. Il faut pas.
On appelait ça l'épingle aussi. Hein, c'est une espèce de pourcentage qu'on recevait pour prix de ses services.
Il ne faut pas oublier la culture de laquelle il est issu. C'est une culture d'ancien régime. Et comment fonctionnait l'ancien régime? Sur une indistinction des intérêts privés et des intérêts publics. N'oublions pas, par exemple, le rôle des fermiers généraux qui avançaient de l'argent à l'État et qui se rétribuaient sur la perception des droits indirects, l'impôt sur le sel, par exemple, et d'autres. Talleyrand a été élevé dans cette culture-là, et je dirais que la pratique de ce qu'on appelait les douceurs diplomatiques à l'époque était une pratique courante. Seulement, Talleyrand l'a probablement un peu institutionnalisé. Tout ça fait avec beaucoup d'élégance et même un certain panache. Évidemment, il ne négociait pas directement lui-même ces douceurs. Il avait un cercle de l'ombre qui tournait autour de lui et qui jouait les intermédiaires. Ça a commencé avec les Américains qui, dans leur puritanisme anglican, évidemment, n'ont pas très bien compris de quoi il s'agissait. Ça a été un scandale à Washington absolu quand Talleyrand a demandé pour négocier la paix avec les États-Unis, mais le remboursement de la dette américaine, a proposé le paiement d'un million de livres de l'époque pour commencer la négociation.
Mais quand même, Emmanuel Varesquiel, par exemple, il y a une entrevue entre Napoléon et le tsar, l'empereur Alexandre Ier de Russie,
à Erfurt,
et là, il dit à Alexandre Ier, résister aux exigences de Napoléon. Il est le ministre de Napoléon, et il suggère à Alexandre de résister à sa demande. C'est quand même extraordinaire. Pour qui travaille-t-il? On a l'impression d'une espèce de mercenaire de la diplomatie.
Alors, deux choses. D'abord, Talleyrand dit une phrase que j'aime beaucoup, il dit « À Erfurt, j'ai sauvé l'Europe ». Et deuxième chose, il ne faut pas oublier qu'encore une fois, on est dans un régime autocratique, sans aucune liberté possible et sans opposition légale possible. Quel est le choix de Talleyrand? À partir du moment où Talleyrand a une véritable vision de l'Europe et de la paix européenne, il est obligé d'occuper une position d'État pour pouvoir jouer le rôle qu'il veut jouer. C'est-à-dire qu'il n'est crédible vis-à-vis des cours européennes que s'il est grand chambellan et vice-grand électeur de l'Empire. S'il ne l'est pas, il est rien. On peut évidemment choisir la retraite et de se retirer sur l'Aventin, mais c'est pas ce que choisit Talleyrand. Talleyrand pense que mener une politique, ça veut dire rester au pouvoir.
En tout cas, en 1807, Emmanuel Varesquiel, comme il n'est pas d'accord avec lui, Napoléon lui retire ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Il continue quand même de l'écouter. S'il le nomme à un moment donné vice-grand électeur de l'Empire. Et alors, vous rappelez ce bon mot de Fouché qui disait...
C'est le seul vice qui lui manquait.
C'est le seul vice qui manquait à Talleyrand. Et puis alors, Napoléon continue de l'écouter. Jusqu'en 1809, là, on est en pleine guerre d'Espagne, une guerre pendant laquelle Talleyrand, qui envisage à l'époque la disparition possible de Napoléon, cherche un éventuel Napoléon qui n'a pas de descendant, se tourne vers Murat en disant « Si jamais l'empereur meurt, vous serez son successeur ». Il y a une véritable atmosphère de complot qui va provoquer donc la rupture définitive avec Talleyrand à l'occasion d'une scène et d'un mot historique, le 29 janvier 1809.
Restez debout, Talleyrand. Comme ici, un accusé devant son juge.
Accusé? Mon Dieu, sire. Moi? De quoi?
Quel a été le prix de votre trahison? On vous a payé cher.
Vous avez donc décidé de porter atteinte à mon honneur?
L'honneur? Vous n'en avez pas d'honneur. C'est une canaille.
Je vous retire votre charge de grand chambellan et les 40 000 francs qui vont avec.
La merde. De la merde dans un bas de soie.
Mon Dieu, quel dommage qu'un si grand homme soit aussi mal élevé.
La scène et les mots et l'échange de mots est authentique, Emmanuel de
Varesquiel. Oui, il y a un mot encore plus savoureux que je préfère encore de Talleyrand à propos de Napoléon. Il dit « Quel dommage qu'il ne soit pas plus paresseux
». Bon, et cela dit, ça c'est la rupture totale et Talleyrand vit à l'écart.
C'est une vraie fausse rupture, hein, parce que Talleyrand reste le troisième personnage de l'État. Il reste vice-grand électeur de l'Empire. Il siège au Conseil de Régence lorsque Napoléon quitte la France pour la dernière campagne d'Allemagne, puis la campagne de France en 1813-1814. Et c'est là qu'il a les moyens de jouer le jeu jeu qu'il va jouer en 1814, c'est-à-dire le renversement de l'Empire et la restauration des Bourbons. Je dirais plutôt d'ailleurs l'instauration des Bourbons. Dans son esprit, c'était plus ça.
Cela dit, il est moins actif, il s'occupe plus de sa vie personnelle, il est marié, il faut le rappeler, sa femme le trompe. Alors il y a ce mot extraordinaire, un jour Napoléon, qui adorait vexer Talleyrand, lui parle justement de la vie agitée de la femme de Talleyrand, et dit Napoléon, vous ne m'aviez pas dit que le duc de San Carlo c'était l'amant de votre femme. Et la réponse de Talleyrand est extraordinaire. En effet, sire, je ne pensais pas que ce rapport pût intéresser la gloire de votre majesté ni la mienne.
Oui, c'est plein d'humour, cet homme. C'est plein d'humour et il faut restituer le personnage. C'est un masque de cire. L'âne disait quelque chose d'extraordinaire en bon militaire qu'il était. Il disait, on lui donnerait un coup de pied au cul que son visage ne vous en dirait rien. C'est ça, Talleyrand. C'est le musée Grévin. C'est quelqu'un qui n'exprime absolument rien de ses sentiments. C'est quelqu'un qui se cache derrière une apparence, ce masque de cire. Et Chateaubriand dira encore plus méchamment qu'il avait reçu tant de mépris qu'il l'avait placé aux deux coins pendants de ses lèvres. Et des lèvres pincées, c'était un visage sans lèvres. C'est un personnage dangereux, inquiétant, en apparence. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait du cœur. C'est ce que j'essaye de faire avec ce personnage, c'est de restituer sa complexité. Et pas sa légende.
En tout cas, sa complexité, on l'observe. En 1814, après avoir servi plus ou moins Napoléon depuis plus de dix ans même, eh bien, c'est Talleyrand qui reçoit Louis XVIII lorsqu'après le désastre de Russie, la monarchie est rétablie en France.
Je suis bien aise de vous revoir, monsieur Talleyrand.
Sire, le retour de votre majesté rend à la France son gouvernement naturel et toutes les garanties nécessaires à son repos et au repos de l'Europe.
Nos maisons datent de la même époque. Mes ancêtres ont été les plus habiles. Si les vôtres n'avaient été plus que les miens, vous me diriez aujourd'hui, prenez un siège et parlons de nos affaires. Aujourd'hui, c'est moi qui vous dis, asseyons-nous et causons. Parmi toutes les questions qui se posent aujourd'hui...
Il y en est une primordiale, c'est le traité de Paris.
Ah oui, c'est vrai.
Alors c'était l'extrait d'un autre film, Le Diable Boiteux, de Sacha Guitry, Talleyrand accueillant Louis XVIII après la chute de l'Empire.
Il ne l'accueille pas, il le restaure.
Et c'est grâce à lui
que Louis XVIII rentre en France.
Et il le restaure, en tout cas c'est ce qui explique que même avant sa mort, en 1838, Talleyrand a laissé derrière lui une réputation détestable, et même donc au-delà de sa mort, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, de son vivant, hein, déjà, Talleyrand apparaît comme une incarnation du mal. En 1834, par exemple, l'écrivain Georges Sand ne fait que l'apercevoir par une fenêtre, hein, ce vieillard de plus de 80 ans, mais son impression est terrible. Cette lèvre convexe et serrée comme celle d'un chat, dit-elle, unie à une lèvre large et tombante comme celle d'un satyre, mélange dissimulation et de lascivité, ce nez arrogant avec ce regard de reptile. Tant de contrastes, dit Georges Sand, révèlent un homme né pour les grands vices et les petites actions. Jamais ce cœur n'a senti la chaleur d'une émotion généreuse. Cet homme, affirme Georges Sand, est une exception de la nature, une monstruosité. Un dégoût partagé par Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe, il y a d'abord la fameuse scène en 1815 quand Chateaubriand l'aperçoit dans un corridor en attendant d'être reçu par Louis XVIII. Tout à coup, dit-il, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand marchant, soutenu par Monsieur Fouché. La vision passe lentement, pénètre dans le cabinet et disparaît. En Chateaubriand, dans un autre passage de ses mémoires, partage la répugnance physique de Georges Sand pour Talleyrand. Ce prince, dit-il, aux trois quarts pourri. Les hommes de plaie ressemblent aux carcasses de prostituées, les ulcères les ont tellement rongés qu'ils ne peuvent servir à la dissection. Victor Hugo aussi, hein, il n'est pas plus indulgent pour Talleyrand. C'était, dit-il, un personnage étrange, redouté et considérable. Il était noble comme Machiavel, prêtre comme Gandhi, défroqué comme Fouché, spirituel comme Voltaire et boiteux comme le diable. Mais oui, il était boiteux. Alors ça devient une telle banalité, hein, de décrier Talleyrand au XIXe siècle que Flaubert l'insère avec humour dans son dictionnaire des idées reçues. Alors, à la lettre T, hein, entre transpiration des pieds et maison de tolérance, on trouve dans le dictionnaire Talleyrand, prince de Talleyrand, s'indigner contre.
enfin, Talleyrand a pourtant aussi quelques admirateurs, Balzac par exemple dans le Père Goriot. Ce prince, dit-il, a empêché le partage de la France au congrès de Vienne. On lui doit des couronnes, on lui jette de la boue. Et Lamartine, hein, qui connaît le métier de ministre des Affaires étrangères, oui, lui reconnaît aussi des grandes qualités politiques. Talleyrand, dit-il, était le grand flaireur infaillible de toutes les choses humaines, le diplomate de la paix, le pondérateur de l'équilibre, le conservateur économe de la vie des peuples.
Alors, au XIXe siècle, Emmanuel de Varenskiel, les points de vue sont plutôt partagés, mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, c'est plutôt les points de vue négatifs qu'on a retenus.
C'est intéressant cette légende noire. Pourquoi ? Elle est issue du 19e siècle et d'un courant spectaculaire au 19e qui est le courant romantique. Et ça s'explique très bien. Ça s'explique par le fait que Talleyrand est issu d'une génération, celle des années 1750, une génération contemporaine de Louis XV, que ne pouvait pas comprendre la génération qui lui a succédé, la génération des Guizot, des Thiers, des Victor Hugo, cette génération qui se forme politiquement après la Révolution, qui n'a pas traversé la Révolution et qui n'a évidemment pas connu l'Ancien Régime, et qui se retrouve en présence d'une espèce de monstre incroyable qui est le dernier à posséder des rites et des usages qui ont totalement disparu. Il y a une espèce d'incompréhension, on dirait de façon moderne, intergénérationnelle entre Talleyrand d'un côté et cette génération romantique qui véritablement va le vomir, parce que vous avez lu des textes qui sont ceux-là, il y en a d'autres, ils sont d'une violence. Imaginez un journaliste contemporain parlant de Mitterrand, parce que Talleyrand avait le pouvoir, et je dirais l'aura, et peut-être plus encore qu'avait Mitterrand à l'époque de sa présidence, prononcer le mot de pourriture, parce qu'on le retrouve souvent sous la plume des romantiques, et pas seulement, dire des choses pareilles. C'était d'une violence absolument incroyable. Et à la limite, Talleyrand, qui a passé son temps à se cacher derrière lui-même et à recomposer sa propre vie, comme le dit très justement Sainte-Beuve, s'est servi de cette légende, et il a laissé dire.
Aujourd'hui, on est plus indulgent. Vous citez Marc Fumaroli qui disait une girouette, oui, mais la tige de la girouette est restée droite. Ça me fait penser au mot d'Edgar Faure qui disait c'est pas la girouette qui tourne, mais c'est le vent.
Oui, Talleyrand est d'abord un homme d'État. C'est un homme incroyablement pugnace qui a un programme politique et des idées qui remontent à 1789, qui attend 22 ans avant de les faire passer dans la réalité. Ça, c'est pas de l'infidélité, c'est de la fidélité à ses idées.
Merci Emmanuel de Varenskiel. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre passionnant et qui porte sur l'ensemble de la vie de Talleyrand. Talleyrand, le prince immobile, qui vient d'être publié chez Fayard. Vous avez également réuni avec Sophie de Civry les archives les plus secrètes de la France dans l'ouvrage Mémoire du monde, 5 siècles d'histoire inédite et secrète au Quai d'Orsay, un livre publié aux éditions de l'Iconoclaste. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Napoléon, écrit par Didier Decoin et réalisé par Philippe Simoneau avec Christian Clavier et John Malkovich. Ce téléfilm est distribué en vidéo par France Télévisions. Vous avez également entendu un extrait du film Le Diable Boiteux de Sacha Guitry, disponible en cassette chez René Château Vidéo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Thomas et Antoine Viossa, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans notre émission, un tournant capital dans l'histoire des Juifs.